Radio Okapi.
Le journal, Pascal Amasirik à la présentation.
Les titres de l'actualité, 11 civils tués, bilan de l'incendie des maisons hier par des rebelles ougandais de l'ELIEF en Dimo, une localité au sud de la ville de Bounia. Des activistes des droits de l'homme de la zone dénoncent la léthargie des forces conjointes pour déjouer cette attaque survenue non loin de leur base. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la session inaugurale du Sénat, le bureau provisoire piloté par Pascal Kindwelo a pour mission de valider le pouvoir, adopter le règlement intérieur et d'organiser en même temps l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Notre invité, c'est le chargé de communication du Parc national de Virunga. Bienvenue, Bouende parle de l'impact de la zone industrielle qui a été créée voici 2 ans par l'Alliance Virunga à Munigi pour pouvoir protéger les ressources du dit parc. Madame, Messieurs, bonsoir. 11 civils tués, c'est le bilan de l'incendie des maisons hier par des rebelles ougandais de l'EDF en Dimo, localité située à une centaine de kilomètres au sud de Bounia en Ituri. Des activistes des droits de l'homme dénoncent la léthargie des forces conjointes pour déjouer cette attaque survenue non loin de leur base. Ils font remarquer que ce drame intervient 48 heures seulement après la mission de paix effectuée dans la zone par l'administrateur du territoire du Rumu. À Bounia, le récit de Martial Kizabiamungu.
Un groupe de rebelles de ZADF provenant de la profondeur de la forêt des Bandavilemba s'est introduit en Dimo vers 19h quand la population vaquait normalement à ses occupations. Selon des sources locales qui citent des témoins, ces rebelles ont ouvert les feux sur les habitats et ont mis les feux sur certaines maisons. Le bilan provisoire est de 11 morts, précisent les mêmes sources. Parmi les victimes, il y a 2 femmes et 1 homme qui ont été calcinés dans leurs habitations. Christophe Mnadero, l'un des activistes droits de l'homme dans la région déplore l'inaction des forces conjointes FRDC et UPDF pour traquer ces inciviques.
L'épicentre de l'ADF, c'est au niveau de Wales et Vokutu. Nous pensions peut-être on devrait renforcer tout d'abord les dispositifs sécuritaires sur les tronçons Commandaluna et voir comment et appuyer les militaires UPDF.
Nous n'avons pas réussi, malgré nos efforts, à avoir l'administrateur du territoire d'Iromo à ce sujet. Il y a 3 jours, cette autorité territoriale a tenu un meeting populaire à Ndimo pour dénoncer certains fils d'humiliés qui se sont déguisés en ADF. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi ces affrontements survenus ce matin au Nord Kivu entre les FRDC et les rebelles du M23 autour de l'agglomération des Kikuku dans les territoires de Rutshuru. Pendant ce temps, une accalmie s'observe au chef-lieu du territoire de Masisi au lendemain d'autres affrontements. 2 personnes ont été tuées dimanche au village de Lutandula dans le secteur de Lufira, situé à près de 400 km de la ville de Lubumbashi. De sources militaires pointent du doigt des présumés miliciens Bakatakatanga. Les FRDC appellent la population au calme. À Lubumbashi, la correspondance de Jean Ganduka Bongo.
Ces incidents ont eu lieu dimanche aux petites heures du matin. Les présumés miliciens Bakatakatanga ont attaqué une position du 2e bataillon des FRDC au village Lutandula. Ils ont tué un sergent et un agent du service national. L'armée les a pourchassés et a mis la main sur 2 d'entre eux et 4 suspects. Dans cette traque, l'armée a saisi aussi une camionnette transportant entre autres 11 armes AK-47, du matériel de communication, des panneaux solaires, des chargeurs garnis et une importante quantité de munitions, renseigne une source proche de la 22e région militaire. Elle indique aussi que pour l'instant, la situation est sous contrôle et toutes les activités qui étaient paralysées dans ce secteur ont repris depuis lundi. Les personnes interpellées et la camionnette interceptée ont été ramenées à la 2e zone de défense à Lubumbashi. À ce sujet, l'ONG dénommée le Centre international pour la promotion du développement des droits de l'homme recommande à l'armée de perquisitionner les fermes qui sont dans les secteurs où ont eu lieu ces incidents. À la population, elle recommande de coopérer avec les services de sécurité pour dénoncer tous les suspects et leurs cachettes afin qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Politique à présent, ouverture ce mardi ici à Kinshasa de la session inaugurale du Sénat. Le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement congolais est présidé par Pascal Kindwelo, le sénateur le plus âgé. Il est assisté de Yvan Kazadi, âgé de 31 ans, et Moïse Ekumbu, 30 ans. Ce bureau a pour mission de valider le pouvoir, d'adopter le règlement intérieur et d'organiser en même temps l'élection et l'installation du bureau définitif. Explication de Michel Kefindangoy.
Après l'appel nominal, puis l'identification du sénateur le plus âgé et les deux plus jeunes, le secrétaire général du Sénat installe le bureau d'âge, présidé par Pascal Kindwelo, banquier et originaire du Congo central, assisté par Ivan Kazadi Kankonde et Moïse Ekumbu. Prenant la parole au perchoir du Sénat, le nouveau président du bureau provisoire rappelle les missions constitutionnelles du bureau d'âge. Pascal Kindwelo Lumbu.
Nous voici en première session extraordinaire de notre législature. L'article 114 de la Constitution énumère 4 points constituant l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau provisoire vient de s'accomplir. La suite de nos travaux portera le point restant à savoir 1. La validation du pouvoir. 2. L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. 3. Élection de l'installation du bureau définitif du Sénat. Je crois aux qualités, en l'expertise de chacun de nous.
Après ces mots, Pascal Kindwelo, membre de l'UDPS Tshisekedi, suspend la séance après avoir promis la convocation incessante d'une plénière pour examiner les points à l'ordre du jour.
À l'Assemblée nationale, pendant 7 ans, la candidature de Serge Bahati au poste de questeur est remplacée par celle de Madame Chimène Polipoli, tous deux membres de l'AFDCA. Dans une correspondance adressée au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Modeste Bahati Lukwebo rappelle que ce poste est attribué à son regroupement politique. Il a donc remplacé l'élu du territoire de Kabaré au sud Kivu par l'élu de Malembankoulou dans le Holo Mami en vue de l'équilibre national et la représentativité des provinces au bureau définitif de l'Assemblée nationale. On enchaîne avec l'Ituri où la Cour d'appel a proclamé ce mardi matin le résultat définitif de l'élection des députés provinciaux. Certains élus dont les noms étaient repris sur la liste provisoire de la CENI ont été invalidés parmi eux. Le président de l'Assemblée nationale, cette décision était attendue pour faciliter l'élection des sénateurs reportée au 24 mai prochain. Pour en parler, retrouvons à Bounia Isaac Remoyope.
Au cours de l'audience, la Cour d'appel dit avoir reçu le 9 mai dernier de la CENI les résultats provisoires de ces députés après la réattribution des sièges dans les circonscriptions de Bougnaville, du territoire d'Irumu et dans celle où le regroupement alternatif chrétien pour le Congo en 1 a présenté des candidats. Cela à la demande de cette juridiction après l'annulation partielle des résultats provisoires de l'élection des députés provinciaux suite à l'inéligibilité de Thomas Lubanga et de Kawapanga Mandro. Les juges de la Cour ont déclaré la nouvelle liste après la réattribution des sièges conforme à la loi. Après analyse, ils ont publié les résultats définitifs de cette élection qui ne reprend pas les noms de certains députés sans déterminer le nombre. Il s'agit notamment d'Adjaru Vadjala Jack Samuel, l'actuel président de l'Assemblée provinciale, Guilain Lobéa de la circonscription de Mambasa et Vaivanava Vinel de Djougou au profit d'autres candidats. Signalons que l'élection des sénateurs à Ituri était reportée au 24 mai prochain en attendant cette décision de la justice. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et puis dans la topo, Paulin Lendongolia et Didier Lomoyo Iteku sont confirmés respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs de la province. Un arrêt de la Cour d'appel a été rendu hier à l'issue d'un procès en matière de contentieux des résultats de l'élection de ces deux responsables provinciaux. Fin ce mardi en Mbujimayi de l'atelier d'information et de vulgarisation de la stratégie de la décentralisation financière destinée aux députés provinciaux. Ces travaux de 5 jours ont été organisés par Encore, le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des finances en RDC. Reportage en Mbujimayi d'Esther Ndalafina.
Cette formation de 5 jours a permis aux députés provinciaux et à certains membres de l'Assemblée provinciale d'acquérir des connaissances sur la gestion des finances publiques. D'après Jean-Claude Moussas Magnong, coordonnateur provincial du projet Encore, le but est de s'approprier les procédures et les outils nécessaires à une gestion saine des finances publiques.
Spécifiquement, il s'agit de renforcer les capacités techniques des élus et de leurs collaborateurs sur le processus budgétaire. On est bien entendu par la loi relative aux finances publiques et ce texte d'accompagnement. Il est question de communiquer la vision du gouvernement contenue dans la stratégie de renforcement de la décentralisation financière. Et il y a autant d'innovations.
Le député provincial Henri Kapinga, élu de Mbujimayi, estime que cette formation leur a permis de connaître leur rôle.
C'est vraiment une formation très capitale pour nous permettre de bien entrer dans la cadence.
La députée provinciale Eugénie Chilanda affirme pour sa part qu'elle a acquis de nouvelles connaissances.
Je ne suis pas du domaine, moi je fais la santé publique. J'ai trouvé que c'était une formation qui a été très importante pour moi, puisque j'ai appris comment régler le budget, comment se déroule la chaîne de dépenses. Ce sont de matière que m'échappait.
Après cette formation, Encore prévoit de former également les membres du gouvernement provincial. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et dans le Kwilu, les chefs d'antenne de la CENI et les logisticiens de Massimanimba sont condamnés à 6 mois de prison pour avoir délocalisé un centre de vote, tandis qu'un informaticien est acquitté faute de preuves. Le tribunal de paix poursuit ces 3 agents de la CENI pour facilitation de la fraude électorale et abus de confiance lors des élections organisées l'année dernière en RDC. À Bandundouville, le compte-rendu d'Irène Mbomaluzolo.
Lors de ces procès, le tribunal de paix de Massimanimba a disqualifié les infractions de fraude électorale et d'abus de confiance mises à charge des prévenus par les ministères publics, faute de preuves. Il a par contre requalifié les faits et a enfin retenu la délocalisation d'un centre de vote comme violation de la loi électorale commise par les chefs d'antenne et les logisticiens de la CENI Massimanimba, avons-nous appris des sources proches du tribunal. Tout en acquittant l'informaticien, le même tribunal a condamné ces deux derniers à 6 mois de prison et au paiement de $10,000 américains à verser à la partie civile, à savoir la CENI, puis la somme de 500 000 francs congolais d'amende à l'État congolais pour avoir délocalisé ces centres de vote. Maître Olivier Mbangala est l'avocat des prévenus.
Pour nous, nous avons dit que le tribunal, le juge a bien rendu les droits, parce que c'était ça d'ailleurs l'objet de notre plaidoirie. Le poursuivre pour faciliter la fraude et pour abus de confiance, ça ne tenait pas. Mais comme il s'est avéré lors de l'instruction qu'il y avait un centre qui aurait fonctionné en dehors des liens convenus, là nous nous courbons, nous disons qu'il a bien radi les droits.
Il faut rappeler que ces condamnés ont déjà totalisé 2 mois depuis leur arrestation. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans un autre registre, au Maniema, 233 candidats, dont 90 femmes, participent depuis hier aux épreuves hors session de l'examen national de la formation professionnelle. L'inspectrice principale provinciale de ce secteur salue le nombre élevé des candidats pour cette année 2024. Les propos de Madame Colette Sifa Balelo ont été recueillis à Kindu par Florence Kizalunga.
Aujourd'hui, c'est le début de nos épreuves hors session de l'ENAFEP 2024 et nous avons réussi à examiner 233 candidats dont 90 femmes dans la province du Maniema. Nous avons 8 centres de passation. Nos épreuves de la hors session vont durer 2 semaines. Donc aujourd'hui, la rédaction, 2 jours de l'oral des Français et 11 jours de la pratique professionnelle. La participation est massive cette année parce que les taux sont à la hausse. Les participants sont nombreux par rapport à l'année passée. Je voulais dire aux autres qui traînent encore les pas de venir car les métiers n'exigent pas la demande d'emploi.
Revenons un instant à Mbujimayi où se tiennent actuellement les épreuves hors session de l'examen national de fin d'études professionnelles. La cérémonie a été présidée à l'hôtel Métropole par le ministre de la formation professionnelle. Antoine Kipoulou s'est réjoui de l'accroissement cette année 2024 des effectifs par rapport aux années précédentes.
Actualité internationale.
Fin À Bamako, du dialogue intermalien, après un mois de discussion organisée par les autorités de transition, 300 recommandations ont été formulées, notamment sur la prolongation de la transition dont la durée est estimée à 5 ans. Les partis politiques ont dénoncé à l'occasion un grotesque piège politique orchestré par les autorités pour se maintenir au pouvoir. Et puis l'Union européenne a fait part ce mardi matin de son inquiétude à propos des récentes arrestations de plusieurs figures de la société civile en Tunisie, soulignant que la liberté d'expression et l'indépendance de la justice constituaient ni plus ni moins le socle de son partenariat avec ce pays. Des éclaircissements sur les raisons de ces arrestations massives ont été demandés localement par la délégation de l'Union européenne aux autorités tunisiennes. Pour mémoire, deux chroniqueurs connus en Tunisie ont été placés en détention dimanche pour des critiques sur la situation du pays au lendemain de l'interpellation d'une avocate pour des motifs similaires.
L'invité.
Notre invité, c'est le chargé de communication du Parc national de Virunga. Bienvenue, Bouende, parle de l'impact de la zone industrielle créée voici 2 ans par l'Alliance Virunga à Munigi pour protéger les ressources du dit parc. Il s'entretient avec Bernard Danyangi.
Monsieur, bienvenue, Bouende, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que le zoning qui est juste à côté de Goma ici contribue à quel niveau en fait à impacter sur la conservation ou les menaces sur la conservation du parc?
Pour d'abord comprendre que de manière globale, le parc national de Virunga, entre autres menaces, il y a la situation de pauvreté que vivent les populations riveraines. Et cette situation de pauvreté, justement, a fait que pendant plusieurs années, le parc national de Virunga a été la principale source de subsistance pour ces populations-là. Et ça a justement cristallisé toutes les actions dévastatrices à l'encontre de la biodiversité du parc national de Virunga. Et donc, la réponse qui a été apportée, il a été double, c'est dans le cadre de l'Alliance Virunga, où d'un côté, la protection de la biodiversité, la faune et la flore du parc, mais de l'autre côté, il y a eu un travail qui a été fait dans le cadre de la promotion du développement socio-économique en faveur des populations. C'est comme ça que, après l'énergie, il y a eu justement tous ces programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui a été mis en place, justement la mise en place de parcs économiques qu'on appelle communément zoning, que vous venez de visiter, justement de ces zonings qui sont des espaces qui sont aménagés afin d'abriter les entreprises, les transformations de production, afin justement de permettre que ces entreprises s'épanouissent, qu'ils se développent et que justement ces entreprises soient de piliers de notre vision de la création de richesses et de la réduction de la pauvreté. Actuellement, il y a 2 parcs économiques qui sont opérationnels. Il y a un parc à Mutuanga et le parc qui est à côté de Goma à Nyiragongo. Et ces 2 parcs économiques accueillent actuellement de grandes entreprises.
Et cela contribue à quel niveau, en fait, jusqu'à présent, selon vous?
Alors, la contribution, on ne peut pas l'évaluer de manière isolée, en prenant seulement les parcs économiques. C'est pourquoi je voulais remettre ça dans le contexte global. Mais jusque-là, nous pensons que les parcs économiques sont en train de très bien jouer leur rôle. Ça veut dire que ces parcs-là favorisent l'installation des entreprises, ces installations qui créent de l'emploi et ces entreprises qui créent de la richesse. Et quand vous regardez, par exemple, le parc économique qui est autour de Goma et les nombres d'entreprises qu'il y a, vous comprenez que derrière, c'est des personnes qui sont employées là-bas, derrière, c'est des personnes qui voient leurs revenus augmenter. Et ces personnes-là, elles ne sont peut-être plus susceptibles de constituer une menace sur les parcs. Mais un deuxième aspect, c'est que ces parcs-là favorisent le développement d'une économie au niveau local. Donc, il y a cette industrie qui se développe, c'est toute l'économie locale qui se développe. Et d'une manière ou d'une autre, c'est en train d'impacter sur la réduction de la pauvreté. C'est en ce sens que ça aide dans la conservation du parc. Parce que quand on parle de menaces sur les parcs, il y a par exemple des menaces qui sont liées à la présence, l'activisme de groupes armés. Ces groupes armés se constituent généralement grâce à une jeunesse qui est désœuvrée. Et plus il y a de l'emploi pour la jeunesse, moins il y a des personnes qui seront susceptibles d'aller faire partie de ces groupes armés-là. Ils sont à la base de tous les crimes environnementaux que nous subissons actuellement dans le parc. Mais c'est la même chose avec toutes les pressions qu'il y a sur le parc, que ce soit les déboisements, la carbonisation, la pêche illicite qui s'opère au niveau du lac Édouard et toutes les autres pressions sur le parc. Regardez les cas des envahissements du parc pour l'agriculture. Nous essayons, à travers le développement de cette économie locale, de donner une alternative à ces gens qui vont forcément chercher des espaces dans les parcs afin de vivre de l'agriculture.
Qu'est-ce que le parc national de Virunga donne comme apport pour accompagner ces entrepreneurs?
Alors, c'est encore une fois un package complet. Ça veut dire quand un entrepreneur va s'installer au sein des parcs économiques du parc national de Virunga, ça lui permet d'avoir accès à l'électricité. C'est parce que ce parc-là, les aménageons et l'électricité est directement disponible à l'intérieur. Deuxième aspect, il y a cette facilité d'accès au crédit. Ça veut dire pour toutes les entreprises qui sont installées dans le parc économique du parc, elles ont cette facilité d'accéder au crédit grâce au programme qui a été mis en place en partenariat avec Equity BCDC. En plus de cela, ces parcs économiques offrent la sécurité, l'accès à l'eau et des possibilités de partenariat entre les entreprises.
Monsieur, bienvenue, bon Dieu, merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chargé de communication du Parc national de Virunga. Bienvenue Buende a été interviewé à Goma par Bernard Nyangi. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20.